À quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler urbanisme et plan local d'urbanisme intercommunal. Ce sera en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on accueille Rémi Poignant qui est co-directeur de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Rémi.
Bonjour merci, à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous nous aviez envoyé un communiqué pour alerter sur... Donc, c'était pendant les débats du projet de loi de finances, parce que les budgets en faveur de l'économie sociale et solidaire étaient en net recul. C'était ça qui vous inquiétait fortement?
Oui, absolument, net recul. Alors, en plus, à plusieurs niveaux, il y a un net recul... vis-à-vis des financements de l'État, puisqu'il avait été annoncé moins 25%. Au final, il y avait eu des débats parlementaires, des amendements qui avaient été validés par le précédent gouvernement, mais finalement, tout est remis à plat. Donc, on repart finalement dans une forme de case départ avec des moins 25% qui avaient été annoncés. Et puis ensuite, il y a le modèle économique de l'économie sociale et solidaire, c'est des modèles économiques qui sont hybrides, qui dépendent beaucoup aussi de liens avec les collectivités territoriales, qui ça peut passer par des subventions, mais aussi par des offres de services. Et finalement, en cascade, en plus de cette baisse au niveau de l'État, on va retrouver également des baisses au niveau des soutiens par les collectivités territoriales. Donc il y a une espèce de double lame qui concerne tout particulièrement l'économie sociale et solidaire et un peu moins l'économie conventionnelle qui, elle, est historiquement, on va dire, subventionnée par l'État via des crédits d'impôt recherche, des plans d'action type France 2030 pour lesquels l'économie sociale et solidaire est largement exclue.
Et alors, peut-être qu'il faudrait revenir pour nos auditeurs et auditrices sur qui sont ces structures de l'ESS et en quoi, effectivement, elles offrent des services et elles sont en lien avec les territoires.
Eh bien, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question-là, parce qu'effectivement, ça pose la question un peu du sens qu'on veut pour nos territoires, pour aussi cette question du vivre ensemble. L'économie sociale et solidaire, c'est assez simple. En fait, ce sont des statuts juridiques, c'est un ensemble de familles. On retrouve les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, mais également les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ces structures-là, c'est des structures qui se rejoignent autour d'un certain nombre de principes et de valeurs communes, dont celle de la gouvernance démocratique. C'est-à-dire qu'une personne égale une voix par opposition à une action égale une voix dans l'économie conventionnelle. C'est également le principe de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, c'est-à-dire que on ne va pas confondre l'idée d'absence d'excédent et bénéfice. L'idée, c'est de pouvoir faire des excédents, mais ces excédents-là doivent être réinjectés dans le projet, doivent être réinjectés pour les territoires. Et puis le troisième principe fondateur, c'est celle de l'utilité sociale, c'est-à-dire qu'on n'entreprend pas dans l'économie sociale et solidaire pour enrichir des actionnaires, pour se faire de l'argent. On entreprend dans les territoires pour pouvoir créer de l'utilité sociale, pouvoir répondre à des besoins pas ou mal couverts, et c'est bien ça aussi le sens de l'entrepreneuriat ESS. Et donc du coup, bien évidemment, quand on diminue finalement le soutien à l'économie sociale et solidaire, c'est de diminuer tous les services d'intérêt général et d'intérêt collectif qu'on peut proposer sur les territoires. Et c'est des services auxquels on ne pense pas toujours, mais qui fondent finalement le lien social sur un territoire, qui permet de rendre inclusif finalement les territoires et faire en sorte qu'on limite finalement cette espèce de tendance à l'extrême droite qui vient se nourrir du fait du sentiment d'exclusion ou cette perte de services publics sur les territoires. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que diminuer finalement l'attention qu'on porte aux structures de l'économie sociale et solidaire, c'est forcément accroître les inégalités et donc accroître le vote du Front National. Et c'est bien ça en fait l'enjeu contre lequel on souhaite lutter en termes de projet de société.
Et alors, baisser les aides effectivement à ces structures, sachant que leur but n'est pas effectivement lucratif, c'est-à-dire directement baisser le nombre d'emplois en fait?
C'est exactement ça. Alors, suite au projet de loi finance, on a l'UDES, qui est notre syndicat employeur hein, de l'ESS, qui a fait des projections. Au niveau national, c'est 180 000 emplois qui sont directement menacés, un peu plus de 180 000. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'économie sociale et solidaire, c'est que finalement, on a une forme de double peine. C'est-à-dire qu'on a d'un côté cette idée d'une économie sociale et solidaire, d'une économie de la marge, d'une économie réparatrice. Une économie de la gestion des surnuméraires. J'ai entendu ça dernièrement, ce qui est assez ouf. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a un ensemble de structures qui, agissent dans le domaine de l'inclusion. Je pense aux structures de l'insertion par l'activité économique, aux entreprises adaptées qui travaillent sur l'emploi des personnes avec une reconnaissance travailleur handicapé. Mais l'économie sociale et solidaire, quand on regroupe vraiment l'ensemble des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, on est entre 15 et 20% de l'emploi privé. C'est-à-dire que on n'est pas une économie de la marge, on est une économie qui pèse sur les territoires, qui crée de l'emploi, qui crée aussi de l'activité, ne serait-ce que par la masse salariale brute. Et donc c'est ça aussi qu'il faut absolument prendre en compte. Juste, je vais donner j'ai lu deux rapports là qui sont sortis concomitamment. Le premier, c'est sur un rapport qui a été sorti par la Banque de France qui répertoriait finalement le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des startups. En France, c'est 60 milliards d'euros. COPFR a sorti le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des coopératives en France, c'est 360 milliards d'euros. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas sur cette économie de la marge. On est typiquement 5 à 6 fois plus gros que le chiffre d'affaires généré par les startups. Ok, est-ce que les startups, je ne le crois pas, à la fois au niveau de l'État et à la fois dans les politiques locales. Et ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur les startups, parce que voilà, il y a des structures et des startups qui font des choses qui sont parfaitement intéressante, y compris pour le territoire. Et la CRES est par ailleurs membre du conseil d'administration de Néologie Technopole, donc elle est très bien placée pour percevoir hein, l'enjeu d'accompagnement. Mais en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est qu'on met de côté tout ce pourquoi l'économie sociale et solidaire est importante sur le territoire et ce qu'elle représente en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de lien social.
Gestion des surnuméraires, on se rappellera de cette... façon de parler. Vous avez donc lancé une enquête auprès de vos membres dans la région Nouvelle-Aquitaine et les premiers résultats viennent de tomber.
Oui, c'est ça, ils sont hyper inquiétants. ils sont inquiétants et ils sont quand même conditionnés à une incertitude qui est vraiment impossible à gérer. On est en décembre, là, mi-décembre, et on est incapable de pouvoir projeter un budget prévisionnel sur l'année prochaine. C'est absolument incroyable. Pour autant, donc, on part finalement sur les résultats de l'enquête, hein, de ce questionnaire-là, on part sur des hypothèses qui sont les plus basses. Ça, c'est sûr. Et sur les résultats de ce questionnaire, on a 80% de nos structures qui estiment que les impacts seront d'importants et extrêmement importants. Et 60% d'entre elles estiment qu'il y aura des pertes d'emplois qui sont associées à ces baisses budgétaires. Sur le modèle économique des structures de l'économie sociale et solidaire, il y en a qui portent des actions de service public, où là, on est sur, bien évidemment, des actions qui sont soumises à subvention et à 100% subventionnées. Donc là, forcément, une collectivité va avoir à opérer des choix budgétaires. Il est possible que ce soit sur l'économie sociale et solidaire que ça retombe. Ça peut même être le premier réflexe. Et ensuite, on a également des structures de l'ESS qui ont des modèles économiques hybrides qui vont vers du serviciel, qui développent de l'autofinancement. Et donc, je pense qu'il faut aussi combattre cette idée d'une ESS sous perfusion de subventions, ce qui est absolument faux, ou en tout cas pas plus vrai que pour l'économie conventionnelle. Et pour ces structures de l'ESS qui ont des modèles économiques hybrides et qui vont vers l'autofinancement, bah finalement on va retrouver également cet enjeu de nos clients, nos usagers, nos usagères vont avoir des difficultés de pouvoir d'achat, vont avoir des modèles économiques qui sont percutés, donc forcément ça va se retrouver sur les modèles économiques des structures de l'ESS. Donc en fait, il y a une vraie inquiétude qui est appuyée sur des faits avec des annonces de baisse qui ont été apportées. Et puis ce qu'il faut aussi comprendre, c'est l'impact que ça a sur les équipes, parce qu'on est sur des structures de l'économie sociale et solidaire qui donnent beaucoup de leur temps, on est sur des structures où il y a beaucoup de sens au travail, et donc parfois ça amène à du dépassement de fonction, etc. Et du coup, cette incertitude-là, elle est extrêmement pesante pour les équipes, et ça amène du mal-être au travail. Et nous, ce qu'on défend dans l'économie sociale et solidaire, c'est aussi la façon dont on amène de la qualité de vie au travail, la manière dont on amène du sens. Et là, aujourd'hui, on ne nous aide pas beaucoup à en donner, quoi.
Merci beaucoup Rémi Poignant, donc co-directeur de la CRES Nouvelle-Aquitaine, d'être venu nous alerter sur effectivement les difficultés que pourraient rencontrer toutes ces structures de l'économie sociale et solidaire si les budgets venaient à baisser. Mais c'est l'incertitude pour tout le monde. Et petit exemple, Radio Pulsar fait partie de cette économie.
Absolument.
On continue en musique avec Louis Clavis et Benjamin Mousset. Ils ont réalisé un album en duo, Unfolding, qui est sorti cette année. Voici le titre, Sieta Lagunas.
Pulsar. Radio curieuse et citoyenne.
Et on accueille maintenant Dominique Leblanc, secrétaire de l'ADEPA. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être on va présenter un petit peu l'ADEPA pour nos auditeurs, auditrices. Vous êtes engagé dans l'habitat.
Oui, l'habitat, le patrimoine, la défense de l'environnement également, puisque c'est un peu le contenu de l'acronyme, hein, agir pour la défense de l'environnement, du patrimoine et de notre habitat.
Pour
86,
donc pour la Vienne, exactement. Et donc vous avez planché sur la charte de l'urbanisme et le futur plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Poitiers, puisqu'il est en cours d'élaboration et de finalisation. Enfin, en tout cas, on peut donner son avis maintenant. Quelle est d'abord, en première question, le L'idée que vous avez de ce PLUI, est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il vous paraît, dans l'ensemble, intéressant?
Ah, il ne sera pas moins équilibré qu'il ne l'était. Hein. C'est d'ailleurs l'objet de nos remarques et de nos propositions également. C'est permettre peut-être d'abord que, du mieux possible, on va dire, la population, les riverains, les habitants de Poitiers, de Grand Poitiers, sachent un peu de quoi ils retournent. Parce que c'est quand même, ça paraît un sujet complètement abscons, l'urbanisme. On a l'impression qu'on n'y comprend pas grand-chose, que c'est de la technique, tout ça. Ben, c'est pas du tout de la technique, c'est éminemment politique. Et on en perçoit les enjeux, en général, quand on est confronté soit soi-même, ou ses voisins, ou ses amis, ou des gens qui habitent sa commune et au-delà, quand on est confronté à des constructions qui semblent complètement incroyables, des immeubles de 10, 15 mètres à côté de maisons particulières qui en font la moitié. Enfin voilà, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on brasse là depuis 3 ans, depuis la création de cette association, qui au passage est un peu une forme de réponse à la sollicitation que dont le comité de quartier autour du Pont-Neuf a été l'objet, mois après mois, ces 4-5 dernières années, sur des problématiques d'urbanisme qui intervenaient dans plein de quartiers de la ville. Et comme le comité de quartier autour du Pont-Neuf a été un peu ciblé comme le quartier qui était sensibilisé, on va dire, aux problématiques d'urbanisme, plutôt que d'être un peu le réceptacle de toutes ces questions, un certain nombre d'entre nous, au-delà, on a créé cette association à débat pour justement reposer toutes ces questions d'urbanisme dans la perspective, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant, de l'élaboration de ce nouveau plan d'urbanisme intercommunal, qui est quand même compliqué puisque normalement il est à l'échelle de Grand Poitiers, donc plus de 40 communes. Donc c'est une vraie gageure en fait cette affaire, d'arriver à faire comprendre au-delà de la ville de Poitiers que les questions d'urbanisme, pour plein de raisons, elles vont bien au-delà de la ville et elles touchent un ensemble de populations considérables, urbains, périurbains, rurales, etc.
C'est effectivement toutes les règles de construction et d'urbanisme qui sont inscrites dans ces plans. Donc ça paraît effectivement complexe et en même temps, ça nous concerne tous. Et il est sorti d'une charte pour un urbanisme résilient. Quelle est un petit peu la fonction de ce document-là?
Ah, alors ça, c'est un peu la question du jour, on va dire. La municipalité, alors, à la suite de la précédente équipe municipale qui avait mis en place une charte, alors qui s'appelle effectivement aujourd'hui charte d'engagement pour un urbanisme résilient, mais qui est, je veux pas dire qu'elle est accessoire, mais en tout cas, son engagement réel reste limité puisqu'il n'y a aucune contrainte au final vis-à-vis des donneurs d'ordre et des promoteurs en particulier. Même si la mise en place de cette charte, qui se veut plus interventionniste, si on peut employer ce mot-là, cette charte reste permet, on va dire, de sorte de présenter un avant-projet de la part des promoteurs et des architectes sur une construction donnée. Mais il n'y a pas de contrainte. Mmh. Mais voilà.
Ça donne une idée politique, en tout cas pour lancer le dialogue. Le but, ce serait
voilà,
que...
Voilà, tout à fait. Mais ça ne contraint pas les promoteurs à s'inscrire dans ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait estimer que ça ne les concerne pas, qu'ils font leur information de leur côté, etc., etc. C'est un peu toute l'ambiguïté, c'est-à-dire jusqu'où cette charte résiliente, elle peut être une sorte de contrepoint à des projets qui sont parfois très fortement rejetés par les riverains, par exemple.
En tout cas, c'est ce que vous proposez, que ce soit un petit peu plus contraignant. Pour ce qui concerne le plan local d'urbanisme, ce que vous voulez, vous, c'est qu'il y ait une concertation le plus possible avec les riverains et que ça devienne carrément obligatoire.
Alors voilà, c'est un peu un des enjeux proches, on va dire, parce que ce PLUI doit rentrer normalement Alors, le Covid a ralenti le processus, mais ce projet doit aboutir normalement sur l'année 2025, mais je pense qu'on est plutôt parti sur 2026. Enfin, tous les temps de débat, d'équilibre, d'aller-retour entre les différents partenaires, c'est en ce moment, effectivement. Et peut-être que, pour donner une information un peu précise, on va voir un peu ce que ça... cette charte, on va dire, comment elle va nous impliquer, puisque début janvier, nous aurons avec la ville de Poitiers une réunion sur deux projets. Alors, on n'en sait pas beaucoup, on n'en sait pas grand-chose, mais deux avant-projets, l'un sur le quartier du Pont-Neuf, l'autre sur l'entrée du quartier de Saint-Éloi, qui rentrent dans le cadre d'une concertation, d'une commission en fait municipale, dans laquelle le service de l'urbanisme et les élus sont investis, bien évidemment. Et donc, on va avoir la présentation de ces deux projets, deux avant-projets, ce qui nous permettra, je pense, de voir un peu de quoi ils retournent.
Oui, de tester un petit peu
voilà,
si ce qui est proposé dans cette charte fonctionne.
Tout à fait, ça va être intéressant aussi. Et une deuxième information, c'est le 22 janvier, donc l'ADEPA aura son assemblée générale annuelle. Et nous, à la maison de la Gibauderie, hein, entre 19h30 et 20h30. Et nous aurons la présence de Gérard Lancereau, qui est un architecte poitevin, qui est très connu dans le milieu, qui fait partie de la maison d'architecture, etc. Et qui est architecte conseil de l'État, et à qui on a fait parvenir notre contribution, pour lui demander un peu son avis, est-ce que c'était équilibré, est-ce que ça allait trop loin, pas assez loin, etc. Donc il nous a fait un certain nombre de recommandations que nous avons intégrées dans cette contribution. Et ça sera pour nous l'occasion de poursuivre la discussion un peu sur ça va où l'urbanisme, sachant qu'on est dans une période un peu particulière, hein, vous le savez sûrement, le secteur de l'immobilier va pas bien. La Fédération nationale du bâtiment a donné des chiffres assez catastrophiques pour l'année 2024. Et donc, on est dans une période clairement de creux, ce qui pourrait être pour nous intéressant, parce que ça peut nous permettre aussi de reposer un certain nombre de questions sans avoir la pression d'un certain nombre de promoteurs qui veulent à tout prix construire 40, 50, 60, 100, 150 logements, comme c'était encore le cas il y a peu de temps. Et donc... ce temps de discussion du 22 janvier, je pense, sera intéressant pour voir un peu reposer un certain nombre de questions sur l'étalement urbain, sur la densification, sur on construit pour qui, pourquoi, comment, à destination de quel public, etc., etc. Voilà.
Vous parlez aussi de réhabilitation des logements vacants. Enfin, il y a plein d'aspects effectivement qui sont abordés. Les rendez-vous sont pris. Effectivement, c'est peut-être là où les gens pourront le plus se renseigner. C'est donc d'aller à ces réunions. Donc mercredi 22 janvier, c'est l'assemblée générale de l'ADEPA et c'est à la maison de la Gibauderie à 18h30. Merci. Merci beaucoup d'être passé dans Séquence Midi. Demain, on découvrira la CTV Couronnerie Télévision qui vient de naître. Et puis, on reviendra sur la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux concernant les 16 mégabassines de la Sèvre Niortaise qui doit tomber cet après-midi. Mais tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous cinéma et il est présenté par Erwan. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Erwan qui est service civique au cinéma Le Dietrich et tu nous parles de Nosferatu.
Oui, alors déjà j'ai une mauvaise nouvelle pour vous car cette année Noël ne sera pas joyeux, ce ne sera pas étoile dans les yeux et cadeau sous le sapin comme on en a l'habitude car ce n'est pas le Père Noël qui viendra nous rendre visite cette année mais plutôt le croque-mitaine, le Baba Yaga, le vampire le plus connu des vampires à savoir Dracula, aussi connu sous le nom de Nosferatu. Alors qui doit-on remercier pour ce cadeau plutôt empoisonné je dirais? Eh bien on doit remercier Robert Eggers, réalisateur américain de 41 ans qui a eu l'amabilité de nous délivrer son nouveau film d'horreur un 25 décembre. Merci Robert. Alors bien sûr, j'en fais des tonnes. Hein. Moi le premier, je suis très heureux de pouvoir enfin mettre la main sur son nouveau film après les très beaux et très dérangeants The Witch, The Lighthouse et The Northman. Cette fois-ci, pas de The Nosferatu, mais qui sait, peut-être que ce sera le Nosferatu qui les gouvernera tous pour reprendre la réplique culte, même si honnêtement j'en doute un petit peu, car il s'attaque ici à une réinterprétation du classique du muet de Friedrich Murnau, sorti en 1922, donc il y a plus de 100 ans, qui est un des films les plus étudiés encore en école de cinéma, croyez-moi je sais de quoi je parle. Mais d'ailleurs, peu importe si le film est meilleur ou moins bon que son ancêtre, parce que je pense que c'est de toute façon une impasse critique que de vouloir comparer les deux films, car ce qui nous intéresse ici, dans cette nouvelle mouture de Nosferatu, c'est de savoir comment il imagine ce mythe éculé et comment il représente la figure du vampire en 2024. Parce qu'au cas où vous dormiez à point fermé depuis 1922, le vampire ne ressemble plus trop à la vision expressionniste allemande que pouvait dépeindre Murnau en 1922, du coup. Depuis, on a eu le droit à la vision très baroque de Dracula par Francis Ford Coppola dans les années 90. On a aussi eu la bonne idée de mettre Tom Cruise en vampire dans cette décennie. Les années 2000 ont laissé Robert Pattinson et les films Twilight abîmer nos rétines allègrement. Puis, pêle-mêle, c'est Jim Jarmusch qui s'y est intéressé il y a quelques années avec Only Lovers Left Alive, Taika Waititi qui nous a fait mourir de rire avec Vampire en toute intimité, mais aussi Marvel récemment qui nous a fait rire contre son gré avec Morbius. Donc vous l'aurez compris, le vampire c'est une figure qui est fatiguée, usée, mais bien immortelle. Ne serait-ce qu'en 2023, c'est pas moins de 6 films de vampires qui ont vu le jour. Donc où est-ce que je veux en venir avec ça? Eh bien je veux vous dire que ce Nosferatu par Robert Eggers, c'est l'occasion de revenir au folklore originel du mythe, aux racines même de ce qui est un peu devenu le vampire cinématique universe. Ce Nosferatu, c'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau film de ce formidable auteur donc qu'est Robert Eggers, car aucun de ses films ne peut vous laisser indemne, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Ces films sont matière à débat, ils sont affaire de cinéma, et rien que pour vivre une expérience telle, il faut découvrir ces films en salle. C'est donc pour toutes ces raisons, et parce qu'on aime à défendre un cinéma qui ne fait pas consensus et qui peut diviser, que le Dietrich vous proposera en sortie nationale dès le 25 décembre, donc dès mercredi prochain pour Noël, et pendant tout le mois de janvier ensuite, Nosferatu, en version originale sous-titrée, bien entendu. Ce sera l'occasion d'ailleurs de retrouver Nicolas Hoult, qu'on a vu il y a peu dans Juré numéro 2, le dernier Clint Eastwood. On pourra également retrouver Lily Rose Depp, qui livre ici une performance vraiment vertigineuse. Il y aura aussi Willem Dafoe, l'acteur fétiche d'Eggers, ou encore le terrifiant Bill Skarsgård dans le rôle du comte Nosferatu. Et j'en profite également du coup pour vous signaler, afin que vous puissiez fignoler vos petits tops de fin d'année, les dernières séances de The Substance, film gore et éblouissant de Coralie Farja, ce samedi 21 décembre à 21h, ainsi que de Au Boulot, le documentaire signé François Ruffin et Gilles Perret, ce lundi 23 décembre à 17h. Alors à bientôt au Dietrich.
Merci beaucoup Erwan pour tous ces cadeaux de fin d'année et on se retrouvera effectivement à la rentrée pour des nouvelles propositions cinématographiques. Et tout de suite c'est l'heure de l'agenda et il est présenté par Yves.
Et oui, bonjour Anaïs, bonjour tout le monde, voici quelques idées sorties à faire ce mercredi 18 décembre. On commence par du jeu de société. De 14h à 18h, l'équipe de la boutique éphémère vous propose de venir jouer gratuitement. C'est ce mercredi donc de 14h à 18h, mais aussi ce samedi 21 décembre. Rendez-vous à la boutique éphémère, 8 rue des Grandes Écoles, pour jouer à des jeux de société animés par des associations locales. Et justement, la boutique éphémère accueille jusqu'au 4 janvier la ressourcerie de jouets, jeux et livres. Ce sont des objets de seconde main nettoyés, complétés et emballés, prêts à offrir pour les fêtes de fin d'année. On part maintenant sur de la musique. Cette fois-ci, on ne vous propose pas d'en écouter, mais d'en créer vous-même. Ce sont les ateliers de musique collaborative animés par Alain Chautard, à partir de ses propres instruments fabriqués, à partir de matériaux de récupération et d'objets du quotidien. C'est aujourd'hui de 15h à 17h à l'espace Mendès France. N'oubliez pas de réserver votre place. Et le théâtre de Auditorium de Poitiers vous propose une représentation pour les plus petits des 12 mois. C'est le Petit B, un spectacle de danse avec des coussins géants et roses. La chorégraphie des deux danseurs s'accompagnera d'une bande son immersive. C'est cet après-midi à 15h30 au centre d'animation de Beaulieu. Quelques dernières places sont encore disponibles, il me semble. Et si vous êtes plutôt lecture, la bibliothèque de Saint-Benoît organise à 16h30 des lectures d'histoire de Noël. C'est organisé par les amis de la bibliothèque et c'est gratuit sur inscription. Vous pourrez vous renseigner à la bibliothèque de Saint-Benoît.
Merci beaucoup Yves, on te retrouve dès demain 8h pour Espace Matin avec toute ton équipe de chroniqueurs pour les dernières émissions de l'année. Sur Pulsar à 21h c'est l'Indépendance, à 23h c'est Sonokino et c'était Angélique à la réalisation technique de cette émission. Je voulais vous parler d'un petit rendez-vous qui a lieu ce vendredi à l'envers du bocal. Ce sera donc à partir de 19h, venez retrouver toute l'équipe de Radio Pulsar, salariés, bénévoles, bénévoles, administrateurs, administratrices, pour faire la fête sur des mix de Cooler Groove. Et donc, nous, on se retrouve dès demain, donc, dans Séquence Midi à 12h30. Et puis, vendredi, ne ratez pas le Café de la Presse. On fera toute une rétrospective de l'actualité locale, donc, de Poitiers, de la Vienne, que ce soit en sport, en politique, économie, etc., etc. Donc, ne ratez pas, rendez-vous 12h30 aussi vendredi avec mes confrères et consoeurs des journaux et radios locales. Merci beaucoup, je vous dis à tous, à demain.
Pulsar.